Voilà, que Dieu soit béni. Donc nous continuons notre série sur l'évangélisation. Nous avions commencé à parler des racines de l'évangélisation, les sources, donc les causes lointaines liées à l'évangélisation, donc notamment le péché, le premier péché d'Adam et la suite. Nous avons parlé dans les sources de la méchanceté de l'homme, le cœur dur de l'homme qui est parti jusqu'à vouloir, par la tour de Babel, rivaliser frontalement avec Dieu. Et nous avions parlé aussi de l'amour de Dieu dès le départ pour qui s'est mis en action pour sauver l'homme. Dieu qui veut vraiment sauver l'homme. Et il a prouvé par le sacrifice de son fils Jésus à la croix pour le salut de l'homme. En deuxième partie, nous avons parlé du message de l'évangile. Qu'est-ce que nous devions présenter comme message? Le problème du péché de l'homme, qui est attesté clairement par sa dégradation physique jusqu'à la mort. Donc la mort est la preuve que l'homme a un problème. Et donc, on devrait rappeler ça à tout homme, rappeler à tout homme que Dieu veut nous sauver par son fils Jésus, clairement, et rappeler aussi le jugement qui attend tout homme qui refuse Dieu. Parce que dans les sources, nous avons montré qu'à chaque fois que le salut était évoqué, le jugement était à côté. Et en troisième point, nous sommes dans le troisième point, c'est les résistances par rapport à l'évangile. Et dans ces résistances, nous avons commencé dans 2 Corinthiens 4 à parler du fait que il y avait un voile qui a été placé devant les humains, un voile qui s'est constitué par le fait que l'homme, menant une vie de péché, Satan a trouvé le moyen de mettre un voile qui empêche l'homme de comprendre le message de Dieu. Et c'est là que nous avons redit que la prière était importante. Il ne suffisait pas seulement de parler. Il faudrait prier pour le salut des gens. Parce qu'il y a un voile qui empêche même que notre parole soit comprise, entendue. Donc il fallait que ce voile soit déchiré par nos prières, par surtout notre investissement personnel dans un esprit de sacrifice pour le salut de l'homme. Et nous avons donné l'exemple du Seigneur Jésus. Quand il s'est sacrifié à la croix, c'est là que le voile du temple s'est déchiré en deux. Ce voile séparait le lieu très saint qui symbolisait la présence de Dieu du lieu saint accessible à une certaine catégorie des humains qu'on appelait les sacrificateurs autrefois. Et quand Jésus à la croix a été crucifié, le voile a été déchiré, un signe que l'homme avait maintenant accès par Jésus à la présence véritable de Dieu. Donc si le sacrifice de Jésus a conduit l'accès à la présence de Dieu, donc forcément nous pouvons obtenir l'accès à la compréhension de l'évangile, l'accès à ce message par notre propre sacrifice, notre investissement dans l'amour, la prière et le sacrifice pour que les autres reçoivent le Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons à parler des résistances, des attitudes d'opposition par rapport à l'évangile. Et oui.
D'accord. Oui, pasteur, c'est trop fort. Je vais faire un peu marche arrière par rapport à ce que tu as dit la fois dernière. La délivrance, c'est le jugement. Est-ce que la délivrance, quand Dieu délivre quelqu'un d'un côté et le jugement qu'il fait de l'autre côté, c'est quoi, par exemple, ça peut être la mort, la maladie que Dieu donne à la personne qui, admettons, je prends le cas de la sorcellerie, hein, et ça peut être quoi en concret, quoi.
Bon, le vrai jugement, c'est le jugement dernier. Mais Dieu, lui, il voit les choses, parce que comme Dieu n'a pas de temps, c'est nous qui avons le temps, nous voyons l'avenir. Mais Jésus, quand il entre, il commence son ministère, il dit, le prince de ce monde est jugé. Pourtant, Satan continue toujours à fonctionner. Mais pour Dieu, c'est déjà fini, c'est arrêté. C'est pour Dieu, du moment que la sentence a été dite, même si l'application n'est pas encore faite, pour Dieu, c'est arrêté, le jugement est fait. Donc, quand nous disons que l'évangile, le salut, vient en même temps avec le jugement, ça veut dire que quand quelqu'un ne croit pas, il est jugé. Donc il est sous le jugement de Dieu. Maintenant, ce jugement, son application totale n'est pas encore venue parce que ça viendra avec la fin du monde. Mais déjà sur terre, c'est quelqu'un qui est sous la colère de Dieu.
Par exemple, quelqu'un qui va à l'église, qui connaît la parole de Dieu, mais ne pratique pas. Ce genre de cas, comment peut-on
le situer ? Il est sous le jugement parce que c'est quelqu'un qui contredit ce que lui-même il pense défendre. Parce qu'en venant, il montre par là qu'il est d'accord, mais par son comportement, il s'oppose. Donc il est sous le jugement de Dieu. Et ce jugement se manifeste par le fait que Dieu se retire de la personne. En se retirant de la personne, Satan vient frapper facilement. D'accord. Mais le vrai jugement où Dieu va agir lui-même fortement, c'est le jugement dernier. C'est déjà acté, mais l'application n'est pas encore arrivée. Donc on attend encore.
Okay.
Voilà, donc nous... Nous allons parler d'une autre résistance à l'évangile, à part le voile. Donc après le voile, parce que je vais par profondeur. Le voile, c'est profond. Donc le voile que Satan a mis sur les gens, c'est vraiment un élément qu'on ne voit pas, mais c'est caché, c'est profond. Parce que si on commence à parler des résistances, nous allons commencer à citer des éléments visibles. On finira par les éléments faciles, on commence par les éléments les plus cachés, les plus profonds. Et le voile était le premier élément. On ne le voit pas, mais il y a un voile que Satan a mis sur les gens de sorte qu'ils ne comprennent pas l'évangile. Donc ça pourrait nous aider à comprendre pourquoi parfois, malgré le fait que l'évangile soit clair, les gens ne semblent pas comprendre. Malgré le fait que le sort de l'homme soit clair, le sort de l'homme est quand même clair, l'homme souffre sur terre, l'homme ne connaît pas la réussite sur terre, malgré tout ça, l'homme n'arrive pas à recevoir l'évangile et s'humilier, parce qu'il y a un voile qui est sur lui. Donc ça, c'est des choses cachées que l'évangile nous dévoile. Oui.
Oui, donc tu parles de ce voile, mais des fois... est-ce que c'est vraiment le voile ou c'est la personne qui sait que si elle reconnaît que Dieu existe, forcément, elle sait dans son cœur qu'elle doit s'y soumettre. Et le fait qu'elle ne veuille pas...
Mais dans ce cas, le message est déjà passé. Donc le voile a été déchiré.
Oui, mais ça, nous, on ne le sait pas, puisque la personne réagit en disant « Mais non, Dieu n'existe pas. » En fait, c'est juste parce qu'elle le rejette Dieu, parce qu'elle sait que si elle dit que Dieu existe, elle devra s'y soumettre.
Oui, là quelque part, moi je réponds par rapport à ton explication. Tu as dit la personne, si la personne pense comme tu penses là, c'est que quelque part le message est arrivé.
Oui, mais...
Mais il y a des gens qui vraiment, ils considèrent que c'est nul. C'est vraiment, ça n'arrive pas le message. Ah oui, c'est pas tout le monde, parce qu'on va y arriver, des gens qui ont déjà une religion par exemple. Ou bien des gens qui viennent déjà à l'église, mais qui ne sont pas en réalité convertis. Pour eux, ils croient vraiment que c'est une erreur. Je vais te donner un autre exemple. Notre frère Paul. Paul vraiment pensait que c'était une erreur, le christianisme. Voilà. Donc, parce que lui, il était déjà dans Dieu. Mais en réalité, il n'y était pas, parce qu'il n'était pas dans la vérité totale. Donc, c'est, le voile, c'est une réalité. Là, tu donnes des exemples de gens dont le voile a été déchiré parce qu'ils ont une réaction de quelqu'un qui a été touché, qui s'oppose à quelque chose. Mais les gens qui sont voilés, ils sont vraiment tranquilles. Ils sont tranquilles et ils sont embêtés, par exemple, parce qu'ils se disent « il ne faut pas que cette religion touche mes enfants, touche ma famille ». Ils peuvent se battre contre ça comme ça, mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont compris qu'ils se battent contre ça.
Donc en fait, souvent, ceux qui n'ont pas de réaction, c'est parce qu'ils ne comprennent pas tout simplement.
Il y a des gens qui ne le comprennent pas. Ou qui considèrent que c'est du charabia, c'est zéro, c'est rien du tout, c'est du verbiage. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui considèrent, mais oui, mais il y a beaucoup de religions. Et quand nous, on parle, ils mettent tout dans la même sauce. Pour eux, c'est flou. Donc il y a un voile qui a été placé. Donc il faut comprendre que ce voile soit déchiré, qu'il soit clair. Voilà, ça c'est des choses profondes. Et deuxième chose profonde, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est ça la résistance principale à l'évangile. Puisque c'est l'orgueil qui a conduit au premier péché, qui a éloigné l'homme de Dieu. Au fait, tout ce que nous faisons, c'est quoi? C'est ramener l'homme à Dieu. L'homme était avec Dieu. Adam était avec Dieu. Mais qu'est-ce qui a séparé Adam de Dieu? Puisque le voile vient après, mais qu'est-ce qui a séparé Adam de Dieu, c'est l'orgueil. Je citais le voile en premier lieu parce que je montais en profondeur. Donc je commence par la chose cachée, profonde, et ensuite j'arrive à l'orgueil qui est moins caché que le voile. Voilà. Mais l'orgueil, c'est le principal agent qui a séparé l'homme de Dieu. Parce que l'homme n'a pas voulu avoir un chef. Satan a proposé à Adam de manger du fruit défendu afin d'être comme Dieu. Mais Adam, il était déjà comme Dieu parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais donc on comprend par là que ce qu'on lui proposait, c'était l'autorité de Dieu. Parce que en matière de pouvoir et d'expression, il ressemblait déjà à Dieu. Mais donc, on devait lui proposer le poste de chef. Donc, si tu veux vivre en indépendant comme Dieu, en chef comme Dieu, voilà, tu peux manger de ce fruit-là. L'orgueil, c'est la chose la plus dangereuse au monde parce que c'est ça qui rend l'homme fou. Un orgueilleux pense qu'il est tout puissant. Au fait, il prend la place de Dieu et ça ferme la compréhension de l'évangile parce que c'est, l'orgueil est en opposition directe à Dieu. Donc, il faut vraiment que nous réalisions ça. Oui.
Est-ce que tu fais un lien entre l'orgueil et la mauvaise foi?
Oui, je fais un lien. Donc la mauvaise foi, c'est l'orgueil va t'amener à négliger les preuves qui sont évidentes. Donc on te montre les preuves qui sont évidentes, mais tu vas les mettre dans la rigolade par mauvaise foi, par orgueil, parce que tu résistes. Voilà, c'est le truc au fond, c'est tu résistes et puis bon, tu te moques des choses qui sont claires, qui sont évidentes. Donc c'est la mauvaise foi, ça va ensemble. Donc finalement, ça t'amènera même à mentir, à vouloir tromper la réalité, altérer la réalité pour s'en servir à ses propres fins. L'orgueil, c'est ça qui empêche l'homme de croire en Dieu. Et pourquoi nous expliquons tout ça? Parce que nous voulons que nous fassions l'évangélisation d'une manière apaisée, pas d'une manière troublée. Donc il faut qu'on connaisse toutes ces choses qui bloquent l'homme, qui empêchent l'homme de venir à Dieu, afin que nous le fassions tranquillement, sans comprendre les réactions des uns et des autres. Voilà. Dans Romains 1, au verset 18, La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc là, on a dépassé le cadre du voile. Ce n'est pas le voile qui les empêche, non. C'est clair, mais l'orgueil les empêche d'aller plus loin. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà. Donc, ce passage nous montre que l'orgueil va nier l'évidence. L'évidence est là parce que quelque part, le péché d'Adam, c'est un péché où il y a déni de l'évidence. Il a nié l'évidence parce que Adam était au courant que c'était Dieu qui avait créé toutes choses, qui avait créé même celui qui le trompait. Mais il a voulu quand même, c'est comme la voiture qui veut se battre contre son fabricant, c'est pas normal. Donc c'est nier l'évidence. Et ça, c'est lié à l'orgueil. En fait, l'homme veut être un chef. Et par conséquent, Dieu devient son ennemi. Dieu devient un opposant. Et à partir de là, Dieu le livre. Puisqu'il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Comme Dieu résiste aux orgueilleux, il laisse l'homme dans sa folie jusqu'à ce que l'homme se rende compte de la profondeur de sa folie pour se réveiller. C'est vrai, d'un côté, nous nous offusquons de voir, nous sommes choqués de voir comment l'homme arrive à des extrémités élevées dans le péché. Mais c'est aussi son jugement en quelque sorte, parce que Dieu l'ayant livré, il plonge profondément pour pouvoir se réveiller et être sauvé peut-être. Et c'est ce qui est écrit, Dieu les a livrés, au verset 24, à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, ils vont très loin dans leur péché jusqu'à déshonorer leur propre corps. Donc, on voit comment l'homme détruit son corps par toutes sortes de drogues, de cigarettes, d'alcool. Lui qui se dit sage, il consomme ce que lui-même considère comme quelque chose produisant la mort. C'est la honte. Dieu montre que vous n'êtes pas Dieu, vous êtes faible. Regardez ce que vous faites. Oui.
Puisque l'homme veut contrôler, alors qu'est-ce qu'il doit faire pour donc pas tomber dans le piège? Donc il prie, tout ça, mais il fait quoi? Il fuit les choses qui peuvent le faire tomber?
Je ne comprends pas.
Le chrétien. Le chrétien, celui qui sait que justement, parce que je pense que le païen, il ne peut pas comprendre. Enfin, s'il y a des gens qui aiment être... diriger, contrôler, bon voilà, ça c'est les païens. Mais le chrétien, il sait que c'est aussi un piège de vouloir contrôler, parce qu'à force de contrôler, on a envie de peut-être plus contrôler, et puis avancer comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi?
Le chrétien devrait vivre sous la dépendance de Dieu, parce que c'est ce qu'a refusé Adam. Adam était en quelque sorte puissant, mais il a voulu être tout puissant, puisque Adam avait de la puissance. Mais il a voulu être indépendant, donc tout puissant se suffire à lui-même.
Oui, mais c'est ça justement qui me fait, entre guillemets, peur, entre guillemets. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà toute la puissance, il avait tout, il y avait juste Dieu. Qu'est-ce qui...
Il avait un chef.
Mais sur Terre, on aura toujours quelqu'un qui est au-dessus de nous. Même un président, il n'est pas tout seul. Enfin,
Ah non, non, l'orgueil peut toujours, te faire croire que tu es le plus fort que le président.
J'ai pas compris.
L'orgueil peut te faire croire que tu es plus fort que le président. Parce que le président a beau mettre les limitations de vitesse à 50, toi tu peux faire 70. Voilà, donc c'est l'orgueil peut te donner l'impression que tu es au-dessus de tout le monde.
Est-ce qu'on peut de soi-même dire, comme c'est quelque chose que vraiment, même quand tu as déjà quelque chose, voilà quoi, la convoitise aussi fait que tu veux plus, se mettre soi-même en retrait, dire par exemple non, vaut mieux que je ne le fasse pas pour préserver.
Là, tu parles du chrétien.
Oui, là, le chrétien. Est-ce qu'il peut se mettre en retrait pour préserver tout simplement
en
sa
vie? En retrait par rapport à quoi?
Par rapport à des responsabilités qui pourraient le faire tomber.
Mais non, là, c'est déjà décidé tout seul. Le chrétien doit toujours se référer à Dieu. Ce n'est pas lui de décider, je me mets en retrait. Non, c'est prier que Dieu le conduise.
Donc, normalement, esprit. Si Dieu lui donne les responsabilités, il doit tenir.
Il doit tenir.
Parce que moi, je me dis, il y a des gens qui ont eu des responsabilités, mais qui ont chuté à cause de l'orgueil, parce qu'ils se sont sentis chefs, et puis après, ils ont débordé, tout ça.
Mais si on ne leur avait pas donné de responsabilités, aller dire, si moi, j'étais responsable, j'allais très, très bien faire. Donc, Dieu permet qu'ils aient des responsabilités. Parce que si ils n'avaient pas eu ça, ils allaient dire tout le temps, c'est parce que je n'avais pas de responsabilité que j'ai failli. Si j'avais, j'allais prouver, j'allais faire ceci. Alors, Dieu leur donne, même si c'est qu'ils vont chuter après. Voilà. Oui, oui, Julie.
Mais est-ce qu'on peut être délivré de l'orgueil? Genre, demander la prière pour l'orgueil et être vraiment délivré de ça, quoi. Mais... Genre, le chrétien, il se rend compte qu'il ne veut pas, mais qu'à des moments, il réalise que mais finalement, si j'ai fait telle ou telle chose, c'est l'orgueil. Et...
Ah oui, donc non, le chrétien a été régénéré. Il a reçu, son esprit a été régénéré. Donc, il a reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en lui peut lui donner la victoire sur sa propre chair. Voilà. Donc, c'est vivre en dépendance de Dieu chaque jour. C'est ça qui nous donnera la victoire sur notre propre chair. Mais elle est toujours là, cette chair qui aime l'orgueil, qui aime les félicitations, qui aime la puissance matérielle. Elle est toujours là. Mais l'Esprit de Dieu peut maîtriser cette chair. Mais pour cela, notre volonté, nous devons décider par notre volonté de nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Oui.
Je voudrais savoir si le verset 21 que vous venez de lire s'applique aux églises protestantes. Donc je m'explique. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Est-ce qu'il s'agit d'une question d'orgueil ou parce que les églises protestantes ont reconnu le mariage?
Excusez-moi. Parce que les églises protestantes ont reconnu le mariage homosexuel. Oui, oui. Est-ce qu'il s'agit d'une question d'orgueil aussi dans ce cas?
C'est l'orgueil. Ils ont voulu maîtriser les choses de Dieu. Ils ont voulu décider sur ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Ce n'est pas à eux de décider, c'est Dieu qui a fixé ça. Ils disent qu'il faut s'adapter à notre époque. Donc ils ont pris la place de Dieu. C'est vantant d'être sage. Maintenant, leur bêtise, parce que le protestantisme, c'est quoi? C'est un mouvement qui est issu du catholicisme parce qu'il a considéré le catholicisme comme étant faux. Et maintenant, eux qui ont considéré le catholicisme comme étant faux, le catholicisme continue toujours à considérer l'homosexualité comme un péché. Eux, ils plongent. Donc, c'est la honte. Donc, qu'est-ce que vous avez réformé? Vous n'avez rien réformé. Vous êtes... pire que les gens que vous pensiez corriger. Donc finalement, c'est ça. Donc ils sont vraiment, ils ont été plongés dans les ténèbres parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que dans leur, ils utilisent la Bible. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 9 que l'homosexualité, c'est un péché. Et maintenant, ils vont commencer à bénir l'image homosexuelle. C'est contradiction. Mais c'est des gens intelligents, mais ils ne se rendent plus compte de cette contradiction. Parce qu'ils sont pris dans la spirale du pouvoir, de se croire Dieu. Voilà. Donc l'orgueil humain, c'est une réalité. L'homme est tellement, peut atteindre des sommets dans l'orgueil, au point que c'est ça qui l'empêche de croire en Dieu, de se livrer à Dieu. Parce qu'il se croit fort. Et c'est, nous devons tenir compte de ça. Et ne pas, comment dire, se limiter à notre discours. Notre discours est clair, mais l'orgueil humain peut s'opposer à ce discours-là, d'où l'importance de recourir à la prière et surtout de croire en Dieu, parce que la foi est importante dans cette affaire. Vous savez, il y a Apocalypse 7, 9 qui dit le salut appartient à Dieu. C'est vrai que quand on cite toutes ces résistances, on a presque envie de dire, mais comment l'homme peut-il se convertir, quoi? Voilà. Dieu est tout puissant pour le faire. Donc il faut faire confiance en Dieu. Le salut lui appartient. Il sait comment amener un homme à être sauvé. Mais l'orgueil, c'est une réalité très, très puissante. Et nous avons besoin aussi... Oui.
Oui, tu mets le voile comme argument, donc le plus profond. Mais au niveau des degrés, je veux dire, on est plus souvent face à quelqu'un qui est dans l'orgueil que plutôt quelqu'un qui est voilé.
Oui, mais parce que le voile, c'est, j'ai dit au plus profond, oui, c'est caché. Les gens ne sont pas au courant de ça, qu'il y a un voile.
Ah d'accord, mais c'est pas au niveau des degrés.
Voilà, c'est l'orgueil qui est la séparation réelle entre l'homme et Dieu. Quoi, parce que l'orgueil, c'est quand même la décision personnelle. Alors que le voile, c'est le diable qui a mis. Voilà. Donc c'est, et quand on dépasse le voile, on est face à l'orgueil de l'homme maintenant. Voilà, donc le refus d'avoir un chef. L'homme ne veut pas avoir un chef. Il veut faire tout seul. Il veut se débrouiller tout seul. Et parfois, quand il se dit même religieux, en réalité, la religion pour lui est un système que lui-même contrôle. Il sait quelle prière faire, à quelle heure, pour avoir ceci, pour avoir cela. Et c'est, ça, ce n'est pas le vrai changement. Le vrai changement, c'est que c'est Dieu qui te gère. Ce n'est pas toi-même qui te gère. Là, nous retrouvons toujours l'orgueil humain. L'homme veut se gérer tout seul, malgré ses limitations, malgré ses faiblesses. D'ailleurs, c'est ça qui prouve son orgueil. Parce que normalement, avec ses limitations et ses faiblesses, il devrait courir vers Dieu. Il y a vraiment une contradiction. C'est ce que Romains 1 soulève. Croire en Dieu, c'est tellement évident et simple que le fait que l'homme ne s'abandonne pas à Dieu, ça montre qu'il est vraiment bloqué, freiné par un orgueil puissant. Parce que l'homme est si limité, il meurt, il ne maîtrise pas les catastrophes climatiques, il ne maîtrise rien du tout. Mais l'orgueil va lui faire croire qu'il maîtrise les choses. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Hitler, depuis 1942, il savait qu'il allait perdre la guerre mondiale, mais son orgueil le faisait croire qu'il pouvait toujours inverser la tendance. Mais c'était déjà fini depuis 1942, c'était une question de temps. Il pouvait s'arranger pour arrêter les dégâts, mais l'orgueil le faisait croire qu'il pouvait battre le monde entier. Voilà, c'est ça l'orgueil.
Quelle attitude on peut avoir devant un chrétien qu'on connaît, qui est proche de nous, et qui fait des fruits de la jalousie, comment dire, d'orgueil. Hein. Et à part la prière, de notre côté, à part la prière, quelle attitude que nous, on peut avoir devant lui? Parce que, donc, je vais m'expliquer un peu. On voit que ses œuvres sont vraiment flagrantes, ça se voit, mais on lui parle de la parole, mais on sent que vraiment, quelque part, c'est l'orgueil. Il sait, mais ça ne donne rien. Il n'y a pas de réponse au bout.
C'est pourquoi nous avons besoin d'être conduits par l'esprit par rapport à chacun de nos actes, parce que les paramètres sont là, l'orgueil est puissant, et c'est des choses que Dieu seul peut gérer. Donc le salut, c'est quelque chose que Dieu seul peut apporter, vu les résistances qu'il y a en face de, qu'il y a en face de nous. Et nous ne devons pas penser toujours que ce sont nos actions qui vont changer les choses. Nous avons une part à faire, des actions à faire, des prières à mener, mais la plus grande part, c'est faire confiance au travail de Dieu lui-même.
Amen. Mais ce que je veux dire encore, ça peut aussi nous entraîner aussi à pécher aussi en même temps, tellement qu'on répète tellement la chose.
Mais justement, donc si on commence, on l'a dit quand, pendant le séminaire, quand on commence à se fâcher, c'est qu'on est en train d'agir par la chair. On est en train de forcer les choses par la chair.
Okay.
C'est pourquoi nous examinons tous ces détails pour que nous ne puissions pas tomber, parce que la colère est toute proche pour dire, mais ça fait longtemps, mais voilà. Là, la chair commence à entrer en action. Nous devons tenir compte du fait qu'il y a l'orgueil.
Ok, merci.
Voilà. Il y a tous ces éléments-là et que seul Dieu peut les vaincre, en définitive. Qui a le micro ? Oui.
Pasteur, bon, il y a le voile, il y a l'orgueil, mais est-ce que ça peut être aussi Satan qui a pris en otage une personne et puis qui ne veut pas la lâcher et puis que cette personne, elle se sent prisonnière et elle n'arrive plus à s'en sortir. Est-ce que ça peut être ça
aussi ? Oui, bon, on arrivera à ça. On a prévu ça. On a prévu le fait que l'homme se sent perdu, sans capacité d'être sauvé. Donc on a prévu ce détail-là. Voilà, on sort résistance par résistance. Voilà, donc ça aussi, ça peut être une résistance, le fait qu'il y ait des gens qui, sous le poids du péché, pensent que ce n'est plus possible le changement. Voilà, donc on va en parler.
Pasteur, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la titutesse et l'orgueil ?
Oui, ça va ensemble. L'orgueil est la mère de tout, la mère de tous ces péchés-là. Donc c'est l'orgueil qui est la source de la tétutesse. Voilà. Et pour répondre encore au frère fidèle, c'est aussi, nous devons comprendre que puisqu'il y a l'orgueil, nous ne devons pas mener l'activité dans une logique de combat. Parce que par rapport à la personne, faire comme si c'était une lutte entre nous et la personne, alors que c'est l'orgueil qui l'anime. Si on fait comme si c'était une lutte entre nous et la personne, on ne fait que donner de la force à la puissance de l'orgueil qui est dans la personne. Parce que l'orgueil est entretenu par des combats, par des guerres, par des oppositions. Et donc, sachant que l'homme est orgueilleux, nous ne devons pas nous approcher de l'homme comme dans un esprit de supériorité. Parce qu'il va ressentir cet esprit de supériorité et lui aussi voudra prouver qu'il est supérieur. Donc nous devons venir comme des agneaux. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Donc tous ces gens-là sont animés d'orgueil et nous on va venir dans un esprit de supériorité commencer à rabaisser tout ce qu'ils sont, voilà, leur présenter l'évangile d'une manière entre guillemets orgueilleuse, ben ça va faire que nourrir leur orgueil et le blocage va s'agrandir. Donc comprenons ça aussi. Donc nous ne devons pas présenter l'évangile d'une manière orgueilleuse, avec un esprit de supériorité, parce que ça va nourrir l'orgueil qu'ils ont en eux et ça va bloquer. Donc restons simples dans notre façon de fonctionner. Bien sûr, tout en disant la vérité, nous reviendrons là-dessus, mais ça n'empêche que nous restions simples dans notre attitude. On reste simple dans notre attitude parce que si on commence à avoir des airs, des gens qui connaissent tout, ah ben là, ça va nourrir l'orgueil qu'il y a chez eux et ça va bloquer les choses. Je me souviens que bon, autrefois, quand j'étais, par exemple, dans la région parisienne, j'ai eu des débats avec des témoins de Jéhovah, ça s'était bien passé. Bon, mais quand je suis venu dans la région de Rouen, j'ai eu deux débats successifs, et à la fin de chacun de ces débats, je sentais en moi une sorte de colère. Alors je me suis dit, c'est pas normal que je sois en colère. Après le premier, j'avais laissé passer. La deuxième fois, au deuxième débat, j'ai dit, mais non, ce n'est pas normal. C'est la deuxième fois que je suis en colère après un débat avec un témoin de Jéhovah. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai reçu la réponse. C'est parce que j'avais mené le débat dans la logique de triompher dans la discussion. Poser des arguments et finalement gagner. Mais ça n'a fait que fortifier l'orgueil, parce que ces gens-là sont préparés au débat. Donc, dans leur groupe, dans leur royaume, donc on leur explique comment débattre, que dire, que faire. Que... Alors, quand toi aussi tu viens dans le même esprit de débattre pour prouver ceci, pour faire de la telle démonstration, mais tu es dans la même logique qu'eux, et donc tu ne fais que fortifier leur orgueil, et le mur devient réel. Et finalement, j'ai reçu ce qu'il fallait faire la prochaine fois. Il fallait juste me limiter à citer les versets bibliques, à donner mon avis et à ne pas chercher à chaque fois à répondre à leurs contre-réponses par des démonstrations, par des longues explications. Je prends le passage, je lis, ils répondent, je relis un autre passage, je vais me limiter à relire les passages bibliques, c'est tout. Et Dieu est grand, puisque quand il te donne la clé comme ça, il a préparé déjà le combat. Il y a le frère Jackie Aberné qui m'appelle, qui me dit, mais j'ai pris rendez-vous avec des témoins de Jéhovah, je souhaiterais que tu viennes pour qu'on soit à deux face à eux. J'ai dit, bon, je vais appliquer ce que j'ai reçu. Mais ils étaient venus à deux. On a commencé les discussions. Mais est-ce que pour vous, c'est eux toujours qui attaquent, vous croyez que l'enfer existe, il y a un feu éternel, tout ça? Moi, j'ai dit, oui, c'est écrit. Je vais vous montrer. Je leur ai montré le passage. Ils m'ont dit, mais non, mais le feu, là, ça ne veut pas dire feu, mais ça veut dire ceci, cela. Moi, j'ai dit, non, non, même, j'ai pris leur Bible, j'ai dit, regardez, c'est écrit le feu. On a changé de discussion. On a pris une autre discussion. J'ai pris le verset, j'ai lu. Finalement, celui qui était le plus jeune commençait à être troublé. Et il a dit, mais donc vous croyez vraiment tel que c'est écrit? Moi, mais puisque c'est écrit comme ça, vous voulez que je croie quoi d'autre? Je crois comme un enfant, bêtement. Et le jeune a acquiescé de la tête. Et au fur et à mesure, on avançait. Il commençait à devenir sympathique vis-à-vis de moi. L'ancien qui était avec lui a compris que ça peut se tourner. Il a arrêté la discussion, ils ont fui. Donc j'étais heureux, j'ai dit voilà, le Seigneur, quand on applique les instructions du Seigneur, on est tranquille, il ne faut pas vouloir prouver, vouloir s'imposer. Je disais, mais non, mais moi je crois vraiment tel que c'est écrit. Je n'ai pas des explications à vous donner, je lis, c'est tout. Libre à vous de croire ce qui est écrit ou pas. Voilà, je n'ai plus fait de démonstrations. J'ai dit, libre à vous de croire ce qui est écrit ou pas, moi je crois ce qui est écrit, comme un enfant. Et ça a arrêté tout, parce que les explications longues ne faisaient que fortifier leur esprit qu'ils ont reçu par Satan de débattre et de vouloir démontrer, de vouloir expliquer. Oui.
Tu as déjà répondu un peu à une partie de ma question. C'était juste quand tu disais, il faut être simple dans l'explication. Moi, j'aimerais savoir être simple, c'est-à-dire donc, parce que dans la Bible, les apôtres, ils prêchaient avec autorité.
Donc, on présente les choses. On présente les choses telles que c'est écrit.
Oui, c'est pourquoi j'ai dit que tu as répondu.
On ne cherche pas à tout résoudre ou à prouver qu'on a raison. Le but, ce n'est pas de prouver qu'on a raison. Le but, c'est d'exposer les choses. Voilà. Et chacun, donc, ils sont libres maintenant de croire ou pas. On expose les choses. On ne cherche pas à prendre le dessus sur eux. Voilà, c'est ça. Il faut éviter de chercher à prendre le dessus sur quelqu'un. Je me souviens de Richard Rembrandt. Une fois, il expliquait qu'il a eu un débat, parce que lui, c'est un juif, mais il s'est converti à Jésus. Et un jour, il a eu un débat avec un rabbin juif. Il a dit, j'ai réussi à vaincre dans le débat. J'ai amené des arguments, j'ai cassé tous ces arguments. Sur le plan du débat, j'ai gagné, mais la personne n'était pas convertie. Et justement, il expliquait pour dire que ce n'est pas le fait d'être plus intelligent ou de pouvoir gagner dans un débat qui va changer le cœur de quelqu'un. Il a dit, j'ai réussi peut-être à blesser son orgueil, c'est tout. Et son orgueil peut-être s'est fortifié davantage. Il a dit, j'ai gagné dans le débat, mais j'ai échoué dans la conversion. Alors que tu peux dire les choses et la personne reste sur sa position ou semble même avoir gagné, mais alors que son cœur est touché. Voilà. à nous de dire les choses dans la simplicité. Voilà, et c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs, mais quand nous venons avec un esprit de supériorité, comme vouloir imposer quelque chose à quelqu'un, comme s'il était moins intelligent, comme si, voilà, donc c'est pas bon. Donc nous ne faisons que fortifier l'orgueil originel qu'il y a dans chaque humain, et voilà, c'est ça quoi. Oui.
Oui, merci. Je voulais savoir s'il peut arriver que Dieu lui-même nous voile les yeux.
Dieu lui-même
nous voile les yeux.
Nous voile les yeux.
Oui.
Oui, oui, ça peut arriver.
Bon, pour quel intérêt?
Quand nous refusons la vérité, à la longue, lui-même, il nous voile pour qu'on vive bien dans le mensonge, qu'on voit comment ça finit mal quand on est dans le mensonge.
Oui, pasteur, je me suis arrêté un peu sur un verset du livre de l'Exode. Je ne sais pas si je peux avoir une explication claire pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Quand Dieu a essayé un peu de fortifier Moïse en disant que quand tu feras cette mission, j'essaierai un peu de toucher le cœur des pharaons afin qu'ils ne puissent pas avoir un esprit libre de vous laisser passer. Je voulais un peu savoir...
Endurcir
le cœur de Pharaon. Bon, c'est comme si, selon ma compréhension, c'est comme si Dieu voilait Pharaon, afin que Pharaon ne voit pas la vérité sur place, pour donner l'intérêt au peuple israélien de comprendre ce qui s'est passé. Je voulais voir un peu la profondeur de cet esprit.
Oui, mais tu viens d'expliquer toi-même. Tu dis qu'il voilait Pharaon pour permettre au peuple d'Israël de voir sa puissance à lui. Mais quelqu'un dira, mais Dieu a rendu mauvais service à Pharaon.
Oui, oui.
Non, Dieu sait que Pharaon est mauvais. Il ne va jamais l'accepter. Alors il l'utilise dans sa méchanceté. Donc c'est comme si Dieu veut éprouver mon cœur et il sait qu'il y a un voleur dans le coin. Il laisse le voleur me voler mon porte-monnaie. Mais ce voleur-là allait voler de toute façon. Voilà, donc Dieu permet qu'il ne vole pas un non-chrétien, mais qu'il me vole moi les chrétiens parce qu'il veut éprouver ma foi pour voir si je crois vraiment en lui. Mais ce n'est pas Dieu qui le rend mauvais. Il est déjà voleur, mais il l'utilise dans sa qualité de voleur.
Ok.
Voilà. Donc, bien-aimés, tenons compte de la réalité de l'orgueil. Donc ne cherchons pas à nourrir l'orgueil des gens à qui nous évangélisons, en les rabaissant, en voulant triompher dans les débats. Non, exposons les choses tranquillement et laissons l'Esprit de Dieu lui-même les toucher. Voilà, un autre problème qui vient en profondeur, donc après l'orgueil, c'est la puissance des plaisirs et du péché. C'est une réalité. C'est... Parce que je cite toutes ces choses-là dans leur ordre de profondeur, parce que, mis à part l'orgueil, il y a la réalité des plaisirs. Qu'est-ce qui amène l'homme à rejeter Dieu? Parce que l'homme croit que Dieu vient lui enlever les plaisirs, parce qu'il y a des interdits dans la parole de Dieu. Mais ce ne sont pas des interdits qui ont pour objectif d'enlever le plaisir à l'homme. C'est des interdits qui ont pour objectif de donner une meilleure santé à l'homme à tous les niveaux, spirituel et physique. C'est la même chose que les interdits qu'on a par rapport au code de la route. Ce n'est pas là pour embêter les conducteurs. C'est là pour donner la sécurité à tous les conducteurs et permettre une bonne circulation des véhicules qui va arranger tout le monde. Parce que s'il n'y a pas le feu, nous savons tous que quand on arrive à un carrefour, c'est écrit « les feux sont éteints ». C'est la jungle, bien-aimé. C'est des cascades et c'est des accidents, souvent. Donc, et finalement, il y a des embouteillages. Nous qui voyageons, nous allons dans des pays où parfois il n'y a pas le feu. Je peux vous dire que vous pouvez rester 30 minutes quelque part dans l'embouteillage juste parce que quelqu'un n'a pas voulu céder sa place pour laisser les autres passer. Et il suffisait qu'il y ait un feu. La circulation allait rouler normalement. Donc les feux ne sont pas là pour embêter les conducteurs. C'est pour créer une fluidité dans la circulation. Mais ça peut freiner quelqu'un qui est pressé. Mais arranger tout le monde, enfin, arranger, freiner quelqu'un, donc je peux dire 0,5% des personnes vont être gênées, mais 99,5% seront favorisés par la présence de ce feu-là. Donc ne prenons pas. Donc les gens prennent les interdits comme des voleurs de plaisir. Pas du tout. Ils sont là pour assurer une meilleure santé, une meilleure continuité. C'est écrit « fumez-tu ». Mais est-ce que cette phrase-là est un voleur de plaisir? Non. C'est vrai que pour le fumeur, quand il lit, ça paraît lui voler le plaisir. Mais le jour où on lui dit que les poumons sont troués, ça va vraiment bien voler le plaisir pendant longtemps. Il y a, bon, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Parce que, il y avait un certain acteur américain, Yul Brynner. Il était souvent. Il faisait souvent les westerns tête rasée. Yul Brynner, il est mort de cancer de poumon et il a laissé une vidéo. Il est mort, je crois, 65 ans. Mais il expliquait que, voilà, quand on lui disait d'arrêter, lui, il voit le plaisir immédiat quand il fume. Quand il peut être énervé, ça le calme. Mais les poumons sont détruits. Donc, quand on dit que fumer tue, bon, ça va gâcher peut-être le plaisir auquel tu étais habitué pendant un certain temps. Mais ça va te permettre de goûter à autre chose qui est excellent, c'est-à-dire l'envie de respirer, se promener, marcher. Voilà, tu as d'autres plaisirs que tu vas vivre dans la longueur au lieu de te contenter du plaisir immédiat de la cigarette. Donc c'est une conception que les gens ont de Dieu, qu'il vient arrêter les plaisirs. Parce que l'homme pense que son bonheur se trouve dans le plaisir sans limite. Mais on se rend compte que le plaisir sans être géré, ça mène toujours à la destruction. Quel qu'il soit, le sucre, le carie dentaire, cigarette, les poumons, l'alcoolisme, n'en parlons pas, des accidents de route, des bagarres à la maison, l'incompréhension au travail. Donc, c'est ça. On a des stagiaires qui, à midi, ils prennent un peu de whisky. Quand ils rentrent, tu lui donnes un exercice. Il est là, il regarde. Donc, c'est des choses qui... Tu vois, rien qu'avec... C'est un jeune, des jeunes de 24 ans. Mais un jeune devient comme quelqu'un de 75 ans parce qu'il vient de boire le whisky à la pause. Donc c'est des choses, pendant qu'il buvait, il avait un certain plaisir que peut-être nous qui avons pris du coca, nous n'en avons pas eu, mais on voit les conséquences. Donc c'est, et maintenant les gens ont une idée comme quoi Dieu vient arrêter tout cela. On voit bien, mais nous on a connu des polygames. Donc quelqu'un qui est obligé, donc il ne dort plus. Parce que quand il est chez sa maîtresse, il dit qu'il est au travail. Maintenant, il travaille aussi. Donc finalement, maintenant, quand il doit aller au travail, il doit trouver une excuse. Ce qui fait que quand il rentre chez lui, donc on suppose que il doit assurer. Il doit aider pour les devoirs. Alors que lui n'a pas dormi. De chez la maîtresse, parce que lui, il a dit qu'il a travaillé la nuit. Et puis, il va se trouver 3 heures du temps pour revenir à la maison. Dans les 3 heures du temps, là, on suppose qu'il doit aussi aider dans la maison. Et la personne est obligée de vivre dans le mensonge, mentir ici à gauche, mentir à droite, mentir. Et finalement, il va tout perdre. Il va finir par être rejeté par toutes ces femmes-là et rejeté même au travail. Donc, ce n'est pas facile, bien-aimé. C'est difficile. Mais, comme ça, de prime abord, on a l'impression que la vie de péché... C'est une vie... Au fait, ça nous ramène quelque part à l'orgueil. C'est-à-dire, la vie des plaisirs, c'est « je me donne du plaisir quand je veux. Je ne veux pas me laisser limiter par quelqu'un d'autre, notamment Dieu. » Nous revenons toujours un peu à l'orgueil, mais il y a quand même une réalité, les plaisirs sont là. Voilà, donc on se dit « je ne veux pas que quelqu'un me limite. » Voilà. je veux, quand je veux m'ouvrir à quelque chose, que je le fasse. Mais, sauf que ce ne sont pas des limites négatives. Ce sont des limites positives. Parce que ça te permet de vivre plus longtemps et plus dans d'autres plaisirs qui sont, voilà, d'une manière gérée, qui t'amènent du bonheur beaucoup plus longtemps. Alors que ce que tu voulais à l'immédiat peut casser ta vie pendant longtemps. C'est ça la réalité. Et donc, nous devons tenir compte de ça. Et souvent, moi, j'ai dit aux gens, puisqu'on va arriver au thème sur les autres religions, il ne faut pas croire que forcément, quand quelqu'un vous dit « je suis athée », c'est l'athéisme qui est vraiment son problème, c'est-à-dire qu'il ne croit pas en Dieu. En réalité, son problème, peut-être, c'est les plaisirs. Il sent bien que croire en Dieu va l'amener à laisser Dieu gérer son problème de péché et de plaisir. C'est pourquoi il rejette Dieu. Il ne veut pas être limité par quelqu'un dans ses plaisirs et dans sa recherche de bonheur. Il ne veut pas être limité par quelqu'un, géré par quelqu'un. Il veut s'éclater. Et comme le mot le dit, quand tu t'éclates. Hein. Un ballon qui s'éclate, ce n'est plus un ballon. Hein. Voilà, tu t'éclates vraiment. Donc quand il dit « je veux m'éclater », il s'éclate aussi en réalité. Mais Dieu veut qu'on reste un ballon non éclaté. Donc là, on peut vraiment exister pendant longtemps. Et beaucoup de gens qui vont donner d'autres arguments, en réalité, c'est souvent que les plaisirs, ils y sont attachés et ils ne veulent pas que Dieu entre pour gérer ça. Deuxième chose, toujours liée au plaisir, donc par rapport à notre action, c'est de montrer que avec Dieu, ce n'est pas une vie sans bonheur. Ce n'est pas une vie de moine. Ce n'est pas une vie de restriction. Parce que dans leur tête, Dieu, c'est la restriction. Non, Dieu, c'est la liberté. Voilà. Mais une liberté gérée au mieux. Vous savez, bien aimé, quelqu'un qui s'abstient de fumer, qui s'abstient de l'alcool, pour certains, ça va paraître une prison. Mais quand nous allons, tu vas courir avec cette personne-là, tu vas comprendre, ah ben cette personne est plus heureux. Toi, tu vas faire 100 mètres. En une minute, lui, il a fait 120 secondes. Et quand il faut continuer, toi, tu demandes déjà l'eau à boire. Mais lui, il continue. Là, c'est là que tu comprends que non, mais ce n'était pas de la restriction que cette personne s'abstienne de cigarettes et de tous ces produits toxiques. Mais ça lui donne la vie. Il peut courir, il peut sauter. Il est bien. Donc, il ne faut pas que dans notre façon d'être et de faire, donner l'impression que c'est la restriction. Non, c'est la vie. Respecter le code de la route, ce n'est pas mauvais. C'est être en sécurité, ça permet la sécurité. On a vu un train, c'est quelque chose quand même d'immense. Un train déraillé aux États-Unis. Parce que le monsieur a roulé à 200 km/h, là où il fallait peut-être rester à 100 km/h, pratiquement le double. Donc, peut-être il a fait ça deux ou trois fois. C'est passé. Mais la troisième fois, ce n'est pas passé. Et des gens sont morts. Donc, respecter le règlement, ce n'est pas manquer de plaisir ou manquer de bonheur. Au contraire, c'est vivre heureux avec d'autres formes. Parce que les gens-là qui sont morts ou bien qui sont accidentés aujourd'hui, ils seraient arrivés chez eux, ils auraient bu le thé, ils auraient bu le café, ils auraient mangé un gâteau, ils seraient heureux. Est-ce que cette vitesse-là, être privé de ça, c'est ça qui va t'enlever la vie? Mais pour quelqu'un qui veut aller qui veut rouler vite, quand on le prive de ça, c'est comme si on le privait d'un grand plaisir. Mais qu'il meure, qu'il fasse un accident, il va louper d'autres plaisirs. Le plaisir de voir ses enfants, le plaisir de marcher avec les amis, le plaisir de manger avec les amis. Parce que tu es maintenant hospitalisé, mal en point, et puis tu vas... On voit aujourd'hui notre bien-aimé Michael Schumacher, il est où maintenant? On lui aurait dit de respecter les itinéraires. Il aurait dit non, les itinéraires normaux là, ça m'ennuie. Il a pris un itinéraire non recommandé. il a fait du hors-piste. Pour certaines personnes, faire les choses comme tout le monde, c'est trop simple. Il a voulu faire du hors-piste. Maintenant, il se retrouve où? Aujourd'hui, les gens normaux qui ont fait du hors-piste continuent à boire du lait, continuent à manger les frites, mais lui, il est devenu presque comme un légume à l'hôpital. Un homme qui n'avait même pas encore 50 ans et qui était immensement riche, avec un avion personnel. Donc c'est pour dire que ce que les hommes considèrent comme plaisir, en général, ça amène beaucoup de problèmes parce que ce n'est pas géré par Dieu. Dieu veut nous donner le vrai bonheur, des choses qui vont nous donner le plaisir et la joie, mais gérées par lui parce qu'il connaît le fonctionnement du corps humain. Il connaît tout ça et il veut gérer ça avec nous pour que nous ayons un bonheur long dans le temps et dans la réalité, dans la sensation. Parce que ce sont des plaisirs éphémères, mais les gens veulent ça parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas entendre, mais ce n'est pas bon, c'est pas bon. Ils ne veulent pas entendre ce terme-là. Ils veulent que tout soit possible. Oui, mais dans toutes ces possibilités-là, il y a le piège derrière, il y a la chute derrière. Donc, nous devons, par notre vie chrétienne, vivre une vie joyeuse qui montre que ce n'est pas une vie de restriction, ce n'est pas une vie de moine, ce n'est pas une vie au couvent, dans le couvent, c'est une vie de liberté avec des plaisirs que Dieu offre, mais des plaisirs gérés par Dieu et non pas laissés à la folie de l'homme qui ne maîtrise pas l'avenir. Donc c'est important dans notre attitude parce que beaucoup font fuir les autres par une attitude froide, de religiosité qui donne l'impression que avec Dieu on ne vit que d'interdits. Non, c'est faux. Donc c'est donner une mauvaise conception des interdits. Et quand ils en parlent parfois de ces interdits, ils en parlent juste de manière religieuse comme des articles de loi, sans comme l'apôtre Paul dit, la loi, la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Même dans le monde, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Donc la loi, c'est un texte, mais il y a un projet dans ce texte-là. Donc quand le législateur vote le texte, il a une idée, il veut amener la société à quelque chose. Donc il faut, quand on expose la loi, qu'on expose en même temps la volonté de celui qui a mis la loi, le bonheur qu'il y a à appliquer cette loi-là. Donc il y a des gens qui se limitent à dire les interdits, sans montrer en même temps le bonheur qu'il y a dans ces interdits. Et finalement, qui vont transformer ces interdits en des paroles de salut. Ce ne sont pas des interdits négatifs, ce sont des paroles de salut. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui pratique sa parole reçoit la vie. En fait, c'est des interdits qui te permettent de vivre. Quand tu respectes le feu rouge, ça te permet de vivre. Commence par ne pas respecter le feu rouge un jour. Tu rencontreras une voiture qui vient en sens inverse, qui vient par les côtés, et ça sera la mort. Donc la loi fait vivre et n'est pas là pour restreindre la vie. Donc il faut que nous-mêmes nous ayons cette conception-là, et que quand, il doit nous arriver de parler de ces histoires de plaisir, de péché et d'interdit, qu'on en parle d'une manière claire, telle que Dieu veut vraiment, pas comme juste des actes religieux censés au fait, montrer qui est pur et qui est sale. Au fait, c'est l'idée que beaucoup ont des interdits, c'est là pour montrer qui est pur, qui est sale. Non, les interdits sont des paroles de vie. Ils sont là pour permettre à l'homme de vivre plus longtemps dans la paix et le bonheur de Dieu. Oui ?
Je voulais dire que respecter la Bible, non seulement nous apporte la vie sur la terre, mais nous permet d'avoir la vie éternelle aussi.
Voilà, donc il y a et puis, il faut présenter les interdits comme étant une conséquence d'abord de réception de la vie de Dieu. Parce que beaucoup présentent l'évangile comme une liste de choses à ne plus faire pour être accepté par Dieu. Là, nous retombons dans les œuvres. Nous devons commencer par présenter l'évangile comme étant un cadeau que nous recevons de Dieu, de la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle qui sera jalonné par ces interdits qui confirmeront cette vie et qui lui donneront une pleine expression. Voilà, c'est ça quoi. Ce n'est pas des interdits, pour qualifier les bons et disqualifier les mauvais. Ces interdits sont là pour baliser la route de l'enfant de Dieu et afin que sa vie sur terre soit agréable, soit trouve une expression qui ne rencontre pas la mort à cause des péchés. Voilà, donc il faut que nous-mêmes nous puissions nous approprier ces interdits comme étant des choses positives. Parce que si, quelque part pour nous, c'est des choses négatives, mais que nous acceptons parce que nous voulons aller au ciel, quand nous en parlerons aussi négativement sans nous en rendre compte. Donc il faut que nous-mêmes nous acceptions les interdits comme des choses positives censées donner la vie, nous préserver de la mort sur terre. Et puis, pour finir, concernant les plaisirs et le péché, c'est dire aussi que Dieu nous donne une vie qui est au-dessus des choses de la terre. Qui est au-dessus des choses de la terre. C'est ça aussi que nous devons prêcher aux gens. La vie que Dieu donne peut vivre sans les plaisirs de la terre tels que les hommes conçoivent cela. Un jour, un pasteur est parti visiter quelqu'un à qui on avait installé les poumons d'acier. Moi, je n'ai jamais vu cet appareil. J'ai entendu parler de ça. Aujourd'hui, la technologie est avancée, la technologie médicale. Mais autrefois, il y a ce qu'on appelait les poumons d'acier. On m'a expliqué que c'était un gros appareil qu'on mettait devant la personne pour l'aider à respirer. Le poumon d'acier, vraiment gros appareil. Et le pasteur, quand on lui a demandé d'aller visiter cette personne, il a réfléchi, il a prié pour chercher quelle va être la parole de consolation qu'il peut apporter à cette personne. Il a réfléchi. Et quand il est arrivé dans la chambre de cet homme qui était un chrétien, le chrétien, c'est lui qui a encouragé et fortifié le pasteur. Donc, il était surpris. Donc, quand il est sorti, il a dit, mais comment cet homme peut être heureux avec les poumons d'acier? Comment peut-il être heureux? Mais c'est que Dieu donne une vie surnaturelle. Nous devons insister là-dessus. Dieu, vous savez pourquoi nous devons prendre tout ça? Parce que nous sommes tous des humains. Nous-mêmes, quand on regarde, tu es face à un riche, tu vois tout ce qu'il a, tu vois comment il vit, dépendant de... Ça s'appelle comment le whisky, le monsieur Johnny Walker. Tu vois comment il vit, quelqu'un qui a 10 maîtresses. Au fait, toi-même, tu te mets à sa place, tu dis non, l'évangile, il ne peut pas accepter l'évangile. Comment il pourra se débarrasser de tout ça? Non, il faut que nous sachions que Dieu donne une vie qui t'enlève le goût de ces choses-là. Il faut aussi qu'on sache ce volet-là. On a parlé des interdits qui meublaient nos vies pour nous préserver de la mort, qu'entraîne le péché, mais il faut savoir aussi que Dieu donne un nouveau goût. La vie éternelle, ce n'est pas seulement un ticket pour le ciel, c'est une capacité à vivre sur terre, pas comme les autres, pas comme esclave du corps. C'est ça aussi la vie éternelle. Et souvent, j'ai dit aux chrétiens qui attendaient un exaucement pour être heureux, j'ai dit, ce n'est pas la bonne voie. Vous devriez demander à Dieu la vie. Parce que quand tu as la vie, même quand tu n'es pas exaucé pour quelque chose que tu attends, argent, mariage, voiture, santé, Dieu peut te donner une puissance qui te permet d'être heureux malgré le fait que tu n'as pas ça. Les autres choses qui rendent l'homme heureux. Voilà. Dieu, c'est ça la vie que Dieu donne. Et nous devons aussi prêcher cela, expliquer que Dieu donnera la vie, c'est-à-dire la puissance qui vient du ciel, qui te permet de vivre. Tu es heureux alors que tu n'as pas de copain. Tu es heureux alors que tu n'as pas de copine. Au sens négatif, hein, vous me comprenez. Tu es heureux alors que tu ne prends pas de Johnny Walker, tu es heureux. Dieu est capable. Et ça, ça doit nous amener à être décomplexés par rapport au péché des humains. Parce que parfois nous sommes complexés. Quand on voit le péché de quelqu'un, on se dit, je ne vois pas comment la personne pourra vivre sans tout ça. Et on est complexé et on n'arrive plus à présenter l'évangile. Parce qu'on connaît la finalité. La finalité, c'est que la personne devra arrêter avec les 10 maîtresses, rester avec une seule femme, mariée. On connaît la réalité. Pour un jeune ou une jeune fille qui a des copains ou qui a un boyfriend ou bien. Mais on sait que la finalité, c'est qu'elle rompe avec cela. Et parfois, nous-mêmes, on a déjà pitié à l'avance. On ne peut faire plus présenter l'évangile parce qu'on se dit que ça sera trop compliqué. C'est faux. Il y a ce chant qui dit « Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. » C'est vrai. Quand Jésus remplit un cœur, on peut vivre sans ces choses-là. C'est une réalité. Voilà. Donc, nous devons aussi inclure cette notion-là. On peut vivre comme notre frère Richard Rembrandt qui a demandé à retourner en prison. Parce qu'il s'y sentait plus heureux qu'à l'extérieur. Mais pourquoi ? Parce qu'en prison, les âmes se convertissaient. En prison, les gens écoutaient l'évangile. Mais quand il est sorti de prison, dès qu'il parlait de l'évangile à quelqu'un, « Allez, je ne veux pas, je suis bien comme ça. » Mais en prison, comme tout le monde était petit, quand il parlait de l'évangile, tout le monde écoutait. Et lui, il aimait que les gens entendent l'évangile. Quand quelqu'un aime que les gens entendent l'évangile, il va préférer l'endroit où on entend l'évangile. Il a dit, non Seigneur, je suis à l'extérieur, je suis heureux physiquement, je mange bien, il y a les omelettes, l'art fumé, tout ça, mais je ne suis pas heureux parce que les gens n'aiment pas l'évangile à l'extérieur. Mais en prison, les voleurs prêtaient l'oreille quand je parlais de l'évangile. Un tel bandit s'est converti. On priait ensemble le soir. Ta gloire était là. Les miracles étaient au rendez-vous. Il a dit, ramène-moi en prison. Ça, c'est la vie que Dieu donne. C'est une vie qui dépasse la rationalité humaine. Quelqu'un qui est heureux en prison. Il n'y a pas que Richard Rembrandt. Il y a Esther Gulchan. On l'a piégée. On lui a dit qu'elle trouvera le travail chez une cousine. Arrivée chez la cousine lui a dit, écoute Esther, tu dois renier Jésus-Christ. Tu es une musulmane, tu dois renier Jésus. Esther a dit, je ne peux pas renier Jésus. C'est Jésus qui m'a guéri. J'étais infirme. Maintenant, je marche. Bon. Sa cousine lui a dit, bon, écoute, tu entres dans cet endroit-là, on te montrera ce que tu as à faire. En réalité, elle est entrée dans la prison. Comme c'est une fille de riche, elle a toujours vécu dans des endroits beaux et propres. Et surtout qu'elle était infirme pendant des années. Elle ne sait pas ce qu'est une prison, elle ne sait pas tout ça. Elle est entrée, elle se retrouve emprisonnée. C'est à l'intérieur qu'elle comprend qu'elle est emprisonnée. Mais elle a fait 3 jours sans manger et boire. Tellement elle était triste, abattue. Après, la vie de Dieu est venue maintenant. Elle a commencé à prêcher l'évangile aux autres prisonnières, des gens qui ont tué des gens, des femmes qui ont tué des gens, des femmes voleuses. Et petit à petit, elle commençait à se convertir une à une. Et sa cellule est devenue une église. Donc elle priait, elle prêchait. Tout le monde était, les femmes étaient heureuses. Et quand on est venu la sortir de prison, elle a dit, non, je ne veux pas sortir. Et sa sœur qui est venue la sortir, elle m'a dit, mais pourquoi Esther, tu ne veux pas sortir? Elle dit, mais ma sœur, tu sais bien que quand je vais rentrer chez toi, ton mari ne veut pas entendre parler de l'évangile. À côté, les gens ne veulent pas entendre de l'évangile, mais en prison, les gens écoutent quand je parle de Jésus. Et ils aiment Jésus. Ils se sont convertis. Et sa sœur l'a supplié pour qu'elle accepte de sortir de prison. Et elle lui a même dit, mais mon mari a commencé à changer d'avis, tu vas voir toi-même. Et effectivement, son mari a fini par se convertir aussi. Le mari de sa sœur a fini par se convertir. C'est ça, bien-aimé, il y a une vie. Il y a une vie différente de celle que nous menons en tant qu'humains. C'est la vie du ciel. Nous devons nous-mêmes prendre cette vie-là. Je crois que ça nous donnera la force aussi d'en parler à d'autres. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas pris cette vie-là, nous continuons à utiliser Dieu pour nous donner des choses dont l'homme charnel a besoin pour être heureux, dont l'homme naturel a besoin pour être heureux, on n'aura pas la force de présenter l'évangile à quelqu'un qui est submergé de plaisirs éphémères autour de lui. On aura pitié de lui, on dira, mais ça va être trop dur pour lui de s'en débarrasser. Mais oh, quand on est conscient qu'il y a une vie qui est au-dessus de ces plaisirs-là, on peut parler de l'évangile tranquillement, parce qu'on sait que, vous savez, Jackie Pullinger était confronté à des gens qui fumaient, qui prenaient l'opium. L'opium, c'est ça qui, avec ça qu'on produit l'héroïne. Donc c'est la drogue la plus puissante. Alors des gens comme ça, tu sais que pour se passer, vous savez que pour se passer de l'héroïne, c'est très difficile. Tu vas faire des hallucinations, tu vas voir des monstres. On appelle ça le syndrome du poulet, quelque chose comme ça. Tu vas avoir froid. C'est horrible le sevrage par rapport à l'héroïne. Mais si tu tiens compte de ça, tu ne prêches plus. Tu te dis, mais ça va être difficile pour qu'ils arrêtent tout ça. Mais Dieu lui avait montré que quand elle priait pour quelqu'un, en général la personne parler en langue, et quand l'envie de l'héroïne venait, la personne parlait en langue, l'envie de l'héroïne s'en allait. Et c'est comme ça que beaucoup ont été délivrés. Il n'y a pas eu que de cas de délivrance de ce genre-là, mais en grande quantité, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc les gens recevaient une vie, la vie de l'esprit, et quand l'envie de l'héroïne venait, ils faisaient vivre la vie de l'esprit par le parler en langue, et ça partait. Et nous devons être conscient de ça. Il y a une vie, la vie de l'esprit, qui est au-dessus des plaisirs. N'ayons pas peur de présenter l'évangile à quelqu'un qui est esclave de plaisir, qui a beaucoup de péchés. C'est comme si nous avons pitié de la personne en disant, mais ça sera pas, il ne pourra pas tenir par rapport aux exigences du Seigneur. Non, il pourra tenir parce que l'horaire, il recevra une vie nouvelle. Une vie nouvelle, une vie puissante. C'est important. J'ai déjà raconté l'histoire de ce jeune homme qui c'était vraiment une poule mouillée. Tout le monde marchait sur lui, à l'école, partout. Il était le souffre-douleur partout. Il n'avait pas de personnalité. Mais le jour où il a reçu l'évangile, il était déjà travailleur. Quand il s'est converti, il est devenu une nouvelle personne. Il a reçu la vie du ciel. Et il avait un patron que tout le monde craignait, un chef plutôt, c'était pas le PDG, mais c'était son chef direct. Tout le monde craignait cet homme, il était balèze, costaud, méchant. Il ne faisait que jurer, sortir des jurons de sa bouche. Et tout le monde craignait cet homme, en commençant par lui-même. Lui, il craignait déjà tout le monde. Et à plus forte raison, cet homme-là. Mais quand il a reçu l'évangile, pendant qu'il travaillait, il entendait toujours son chef sortir des jurons, des mots impudiques, des mots déplacés, voilà, des gros mots. Lui qui était peureux autrefois, il a dit, chef, j'ai quelque chose à te dire. Le chef dit, quoi? Qu'est-ce que toi tu as à me dire? Il dit, à chaque fois que vous sortez des gros mots, ça déplaît à l'être qui est en moi, là, à l'Esprit de Dieu. Et ça me met mal à l'aise. Bien-aimé, ce que lui l'a fait là, un employé normal ne l'aurait même pas fait. Parce que cet homme était très menaçant. L'homme s'est fâché quand le petit lui a dit ça. Et dès le lendemain, il disait plus de gros mots. Cet homme, il ne s'était pas encore converti. Rien que le fait que le petit lui ait dit ça, c'est sorti avec une puissance qu'il a libérée avant d'être converti. Il ne disait plus de gros mots. C'est pour nous dire, bien-aimés, la puissance de Dieu, c'est une réalité. Donc nous devons, quand nous envisageons le salut des âmes, l'évangélisation, leur transformation, ne pas nous-mêmes être inquiets en nous disant « mais il est trop lié à tel péché, trop lié à tel plaisir, Dieu peut libérer. » Parce que c'est une vie qui vient du ciel. N'hésitons pas à présenter l'évangile. Ce n'est pas notre problème, comment les gens sont libérés. Soyons-en certains tout simplement que quand quelqu'un va recevoir Jésus, il va recevoir une nouvelle vie qui va le libérer du reste. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous aides à saisir ces réalités que nous allons rencontrer, que nous avons déjà rencontrées concernant la résistance à l'évangile. Les gens, les humains sont animés d'un orgueil. L'orgueil qui vient d'Adam, qui les empêche d'accepter un chef qui soit au-dessus d'eux. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides à ne pas nourrir cet orgueil en les abordant avec un esprit de simplicité, tout en demeurant dans la vérité, dans l'autorité de la parole, à ne pas les aborder dans une volonté de triompher pendant les discussions, de sortir vainqueur des débats, mais que nous puissions chercher à toucher leur cœur et non à convaincre leur cerveau, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Que nous ne soyons pas non plus déstabilisés par la multiplicité des péchés d'un homme ou des plaisirs auxquels il est lié, Seigneur, mais que nous fassions confiance au fait que ta puissance est grande pour libérer et donner un nouveau goût à la vie, des objectifs nouveaux qui vont donner le bonheur. Seigneur, que nous puissions vivre une vie heureuse, prouvant ainsi que ce n'est pas une vie de restriction, mais une vie de liberté et de paix par l'Évangile, Seigneur, par la réconciliation avec notre Père. Et que nous puissions aussi, Seigneur, nous appuyer sur le fait que la vie que tu nous donnes, c'est la vie éternelle. Que nous ne puissions pas vouloir, en présentant l'Évangile, résoudre les problèmes seulement terrestres, mais que nous puissions lier tout cela à la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour ces enseignements. Et nous prions, Seigneur, que cela nous aide à sauver beaucoup d'âmes. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.